soit, l'ONU ne lancera pas une mission d'enquête conjointe internationale sur les violences au Kasaï en RDC. Le gouvernement congolais conservera la direction des investigations après le retrait du projet de résolution sur la mission d'enquête internationale au Conseil des droits de l'homme à Genève. Un autre document doit être débattu ce vendredi, mais il ne prévoit que l'envoi d'une équipe d'experts pour l'établissement des faits qui devront remettre leurs conclusions aux autorités judiciaires congolaises. Comment analyser cette décision de l'ONU? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Maître Jean Maubert Senga, chercheur sur la RDC pour Amnesty International. On me signale qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Professeur Boniface Moussambi Kabissa, bonsoir, vous êtes en ligne?
Oui, bonsoir.
Merci professeur, vous êtes criminologue. Il va également nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est Serge Kadima, cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé ce jeudi de laisser à la RDC la direction de l'enquête sur les violences au Kasaï. Le Conseil de sécurité des droits de l'homme a pour ce faire demandé au haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad Al-Hussein, d'envoyer une équipe d'experts internationaux qui devront collaborer avec des experts congolais afin de recueillir les informations permettant de déterminer les faits, conformément aux normes et pratiques internationales. Cette décision satisfait les autorités de la RDC. Berry Franklin Luchaka pour les détails.
Le gouvernement congolais se dit satisfait de cette décision des Nations Unies car, explique Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, Kinshasa ne voulait pas d'une enquête en vase clos parallèlement à ce qui se fait déjà. Lambert Mende.
Au lieu de cette enquête en vase clos, parallèlement aux instances congolaises, comme si la RDC était un état néant, nous avons catégoriquement refusé cette formule-là. Je pense que la voix de la sagesse a prévalu et nous en sommes satisfaits. Mais comme les gens veulent toujours taper sur les Congolais, ils ont voulu croire qu'à Genève, ils allaient avoir une autre solution et on a perdu du temps.
Bien que Kinshasa conserve la direction des investigations, le Conseil de sécurité des droits de l'homme a demandé au haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad Al-Hussein, d'envoyer une équipe d'experts internationaux qui devront collaborer avec des experts congolais. Ils auront pour mission de recueillir les informations permettant de déterminer les faits conformément aux normes et pratiques internationales. Le gouvernement avait menacé lundi de ne pas accorder l'accès à son territoire aux membres d'une mission d'enquête indépendante d'un an. Rappelons que Zeid Raad Al-Hussein avait déployé la semaine dernière une équipe de son bureau pour entendre les réfugiés de la province du Kasaï dans les pays proches de la RDC. Après leur conclusion, il avait accusé mardi les autorités congolaises d'avoir armé une milice à l'origine des attaques ethniques horribles dans le Kasaï. Des centaines de civils des communautés Luba et Lulua auraient été tués, brûlés vifs ou mutilés. Selon l'Église catholique congolaise, près de 3500 personnes ont été tuées au Kasaï dans les violences depuis septembre dernier entre l'armée et les soutiens armés des responsables locaux. Plus de 1,3 million de personnes ont été déplacées et 30 000 sont réfugiés, dit l'ONU. Notons qu'un autre document doit être débattu ce vendredi.
Merci Berry Franklin Luchaka. Professeur Boniface Moussambi Kabissa, vous êtes criminologue. Professeur, comment vous comprenez cette décision de l'ONU?
Je vous remercie pour l'invitation. Moi, je pense que il faut commencer par les commencements. Il y a dans cette histoire, dans la décision des Nations Unies, pas d'euphorie, puisque lorsqu'il y a des victimes, ces victimes exigent une justice à leur égard. Les Nations Unies savent aussi que comme pays indépendant, il serait inimaginable que le gouvernement organise l'autodestruction de ses propres populations. Et donc, mais ils savent de l'autre côté que le Congo n'a pas les moyens techniques suffisants pour mener une enquête de cette envergure. Il a besoin de l'aide et de la sincérité. Moi, ce qui mérite, c'est que lorsque les militaires commettent des bavures, je considère, excusez-moi de parler comme scientifique, je considère ça comme les actes naturels de certains dérapages chez les militaires. Ce ne sont pas seulement les militaires congolais. Tous les militaires, on a étudié, lorsqu'ils sont dans une situation de stress très élevé, ils finissent par développer un comportement tout à fait, j'allais dire, un comportement d'agression. Et donc, il ne faut pas que chez nous, nous prenions part de ces délinquants qui ont tué parce que il y a des victimes. En revanche, ce n'est pas le gouvernement qui va organiser la tuerie parce que, à ce que je sais, dans ces gouvernements, il y a plus de Kassaïens que les gens de Bandundu. Et donc, ça serait très étonnant, et je n'ai pas la langue dans ma poche, que les Kassaïens s'organisent pour s'autodétruire, parce que finalement, ça ne servira à rien. Les Nations Unies ont pris une décision qui est sage, mais à nous, maintenant, la République démocratique du Congo, de démontrer que nous avons des experts, de démontrer que nous sommes un État indépendant, de démontrer que nous sommes capables de nous séparer de la gangrène qui endeuille et en même temps qui fait la honte de notre pays. Donc voilà, pour moi, c'est une décision qui est tout à fait juste, mais il faut que nous, on démontre à la communauté internationale qu'ils ont eu tort de douter sur les éléments judiciaires et militaires du Congo.
Alors, professeur, peut-on dire, par exemple, que toutes les allégations avancées par les Nations Unies pour réclamer cette enquête internationale étaient totalement infondées?
Vous savez, j'ai la tristesse, je dis bien la tristesse, de vous donner la réponse que je vais vous donner. Moi, je suis une personne qui déteste l'injustice à mon égard ou à l'égard d'autrui. Mais qui pilote aujourd'hui ces décisions des Nations Unies? C'est là où il y a malheureusement des problèmes. Parce que les Nations Unies, qui auraient dû être les saints des saints, on les a vus donner des informations qui par la suite se sont avérées tout à fait fausses. Vous voyez? Et moi, à partir de ce moment-là, je ne peux pas prendre comme parole crédible tout de suite parce que ça vient des Nations Unies. En revanche, je reviens sur ce que j'ai dit ici, lorsqu'il est prouvé qu'il y a des personnes coupables parmi nous, que ce soit pour des tueries, que ce soit des gens qui détournent les deniers publics, moi je ne peux pas les défendre. Parce que là, comme disait, je ne sais plus quel auteur, que lorsque vous acceptez d'être dirigé par un type qui détourne, vous n'êtes pas victime, vous êtes complice. Donc, d'un côté, c'est normal que moi, ayant vu l'histoire qui s'est passée dans des pays comme la Libye, dans des pays comme l'Irak, dans des pays où par après, il a été démontré tout simplement qu'on a manipulé l'opinion internationale, et moi, je prends les choses avec réserve. Et je suis très heureux aujourd'hui d'apprendre qu'ils ont accepté de prêter à la République démocratique du Congo des techniciens qui ne viendront pas faire de la complaisance. Mais en même temps, les Congolais eux-mêmes ne vont pas faire de la complaisance.
Merci.
Parce que les victimes nombreuses ont besoin de la justice.
Merci, professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Serge Kadima, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Comment avez-vous accueilli cette décision de l'ONU de ne plus envoyer une commission d'enquête internationale sur les violences au Kasaï?
C'était une décision rationnelle dans la mesure où vous allez me permettre d'abord de féliciter le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères, qui a fait un grand travail, un travail remarquable de diplomate aguerri. Nous l'avons vu dans tous les fronts, aller voir ses homologues ainsi que les homologues du président Kabila, parce que la diplomatie qu'il mène, c'est sous l'impulsion, sinon sous la direction du président Kabila. Donc cette position a emboîté celle non seulement de notre pays, mais aussi de l'Union africaine. Donc c'est pour dire que ici, cette décision a respecté les principes même de la création de Nations Unies. La création de Nations Unies s'est base ou bien était basée sur des principes de respect des États membres qui constituent en fait cette société. Donc nous pensons tout simplement que, entre autres, les principes de souveraineté, étant donné que tous les partis membres de Nations Unies ont des constitutions qui sont censées être respectées dans leurs respectifs pays, et ce qui se passe en République démocratique du Congo, les responsables de Nations Unies ont estimé qu'ils ne peuvent pas aller à l'encontre de ce qu'ils ont eux-mêmes décidé au départ.
Alors j'ai posé presque la même question au professeur Kabisa. Il y a beaucoup d'allégations qui ont été avancées par l'ONU vis-à-vis de la RDC, notamment le fait d'entretenir une milice nommée Banamura qui serait en train d'exterminer les populations Luba et Lulua dans le Kasaï. Et donc c'est quand même des allégations graves. Vous pensez que toutes ces allégations sont non fondées?
Bon, ce sont des allégations que je considère comme une prolongation des rumeurs et des spéculations. Sinon, dans une certaine mesure, personnellement, je n'ai pas suivi les responsables au niveau des Nations Unies faire ces allégations-là, mais j'ai suivi ça dans la rue, j'ai vu ça dans les journaux, mais j'ai doute fort que ça vienne des responsables. Parce qu'on ne peut pas faire de telles allégations lorsqu'on n'a pas des éléments probants. Et ça, ce sont des rumeurs, des allégations que nous considérons comme des allégations de nature à vouloir discréditer tout un État, discréditer toute une unité de l'armée dans notre pays. Et nous considérons que c'est inacceptable. Aucun Congolais responsable et digne de ce nom n'est pas accepté de telles allégations.
Christian Lufungulo de Kisangani dit, vu l'instance du gouvernement congolais pour la direction des enquêtes, l'ONU a raison de laisser la RDC mener ses enquêtes car l'ONU veut voir les résultats, les analyser, les comparer au fait de motivation pour l'enquête internationale. Le gouvernement doit savoir qu'il est piégé et qu'il doit être trop prudent dans la collecte des données et la présentation des résultats pour ne pas être surpris par des décisions plus rigoureuses. Serge Kadima.
Bon, on dit ceci, que la direction des enquêtes sera, sinon, est reconnue, d'abord constitutionnellement, ce n'est pas les Nations Unies qui reconnaissent cette mission au gouvernement congolais, c'est d'abord le gouvernement congolais qui mène, sinon qui avait la direction de ces enquêtes. Et nous considérons que tout ce qui sera fait en dehors de cette direction, nous allons considérer cela comme des provocations, ou bien comme la matérialisation du complot contre non seulement notre pays et notre peuple aussi. Donc nous considérons jusqu'à preuve du contraire que nous devons continuer à faire confiance aux forces de l'ordre qui ont la mission constitutionnelle de sécuriser la nation, la police congolaise également qui est là pour sécuriser les personnes et leurs biens. C'est vrai qu'il y a des problèmes sur le sol congolais, nous continuons à faire confiance aux services des renseignements militaires comme civils de notre pays, évidemment le gouvernement de la République qui est inquiet, qui est préoccupé par cette situation. N'oubliez pas, avant que l'ONU décrète cette mesure ou bien cette résolution, les Le président Joseph Kabila lui-même s'est déplacé. Il a envoyé plus d'une fois le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur au Kasaï pour que la lumière soit autour de cette question.
Odon Chilumba de Boma, dans la province du Congo central, dit « L'ONU n'avait pas d'autre option devant des gens qui ont des choses à cacher, donc la décision n'est pas mauvaise, c'est juste pour avancer, pour faire avancer les choses, car entre-temps, beaucoup d'épreuves de témoins en droit matériel sont en train d'être cachées. La question que je me suppose, où allons-nous avec cette souveraineté? Plus de 3500 morts, plusieurs personnes déplacées. L'ONU veut nous aider avec des moyens adaptés pour trouver les coupables. Et le gouvernement s'impose au nom du nationalisme. Or, nous savons comment les enquêtes se terminent en RDC, voire le cas de Chebeya.
Bon, le problème c'est qu'il a bien commencé, mais malheureusement il chute pas de manière cohérente. Nous disons que pour ce qui se passe, c'est quand même des massacres de trop. Ce qui se passe sont des tueries de trop. D'ailleurs, tous les Congolais, nous sommes tous mobilisés. Vous avez vu dans plusieurs délégations, il y a eu les délégués, sinon il y a eu des opposants. Il y a eu même des gens de la majorité présidentielle qui sont descendus. Je pense que maintenant, nous devons parler un même langage pour que nous puissions éclairer cette affaire. Ce n'est pas une personne qui est morte, ce n'est pas deux personnes qui sont mortes, mais les morts que nous avons connus dans les Kasaï nous inquiètent. Et nous pensons que c'est une situation que nous devons prendre aujourd'hui au sérieux. Et je ne pense pas que les Congolais sont dits pour accepter que les rapports soient complaisants. Et nous pensons même que et la police, que ce soit les services de renseignement, ils doivent savoir qu'il y a les peuples congolais qui suivent les déroulements de ces enquêtes. Et nous avons besoin d'avoir une lumière. On n'a pas besoin d'avoir des conclusions politiques, mais nous avons besoin des conclusions qui peuvent nous permettre de solutionner définitivement cette question.
Alors, une enquête internationale, Serge Kadima, n'aurait-elle pas permis d'innocenter ou certaines autorités congolaises, puisqu'il y a certains analystes à travers le monde qui pensent que certaines autorités seraient mêlées à ces massacres?
Bon, lorsqu'il y a un massacre, on ne se confie pas aux analyses des analystes. Il faut des enquêtes sur les liens.
Et une enquête internationale aurait permis peut-être d'éclairer la lanterne des Congolais.
Je pense tout simplement qu'au nom de la souveraineté nationale, nous devons continuer à faire confiance au gouvernement, à ces institutions, afin que nous puissions aboutir. Le gouvernement de la République dit que toute personne qui pense qu'ils peuvent apporter des méthodes d'enquête plus appropriées, meilleures que celles que nous avons, le gouvernement reste ouvert. Et si ces propositions viennent, nous les accepterons afin que nous puissions trouver la solution à ces problèmes. Mais brader, c'est-à-dire que laisser la direction de ces enquêtes à l'étranger, je pense que ça, c'est céder la souveraineté et nous ne pouvons pas accepter cela. La preuve est que nous sommes soutenus par les pays amis, nous sommes soutenus par l'Union africaine et aujourd'hui, les Nations Unies viennent de nous donner raison, donc nous pensons que nous sommes dans les bons.
La RDC est soutenue par les pays amis, et notamment les pays africains. Vous savez, c'est que la justice en Afrique, il y a plusieurs auditeurs qui l'ont dit. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces Congolais qui pensent que la RDC ne saura pas mener des enquêtes sérieuses? On a donné le cas ici de Chebeya, on a aussi par exemple le cas des fosses communes de Maluku qui sont restées lettres mortes.
La réponse est que aujourd'hui, lorsque les Nations Unies acceptent que la République démocratique du Congo continue à diriger ces enquêtes, c'est parce que les Nations Unies savent pertinemment bien qu'en dehors de la République démocratique du Congo, il n'y a pas quelqu'un d'autre, ou bien il n'y a pas une autre structure qui peut assurer des meilleures enquêtes, ou bien il n'y a pas une autre structure qui peut substituer l'État congolais. J'aimerais aussi dire à mes compatriotes qui ont encore les doutes que le premier défenseur des droits de l'homme reste l'État. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'en dehors de notre gouvernement, personne ne viendra faire des choses dans l'intérêt du peuple congolais. Les autres qui viendront, ils viendront tout simplement parce qu'ils sont intéressés par les richesses du pays, ils sont intéressés par les business, ils sont intéressés peut-être parce que ils veulent faire plaisir à tel ou tel autorité politique. Mais l'État congolais au-dessus de tous ses intérêts partisans, et l'État congolais cherche l'intérêt de tout le monde.
Merci Serge Kadima, je vous redonne la parole tout à l'heure. Jean-Maubert Nsenga, bonsoir, vous êtes en ligne?
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes chercheur sur la RDC pour Amnesty International. Comment avez-vous accueilli la décision de l'ONU de ne pas mettre en place une enquête internationale sur les violences qui se déroulent au Kasaï?
Merci beaucoup pour l'invitation. Permettez-moi de commencer par avoir une pensée pieuse pour les populations de Beni, qui se sont réveillés ce matin, comme souvent, dans des affrontements, des crépitements, où on entend qu'il y a eu des morts et des blessés, y compris parmi les élèves qui passaient l'examen d'État. c'est une situation qui est préoccupante à Bénin, mais aussi au Kassai et ailleurs. Sur ces enquêtes, d'abord, il faut dire que la décision du Conseil des droits de l'homme à Genève n'a pas encore été prise. La décision devrait être votée, la résolution doit être votée ce vendredi. Et jusque-là, les documents qui ont pu circuler dans certains médias, ce sont des drafts, ce sont des documents de travail, ils n'ont pas encore la valeur de résolution et qui peuvent connaître des changements, des améliorations dans un sens ou dans un autre. Cela dit, si le texte est proposé et voté en l'état, c'est-à-dire la version que moi j'ai devant moi, si elle est votée en l'état demain, ça va être une certaine déception pour nous, parce que nous attendions, nous espérions, nous avons demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête internationale qui a le pouvoir d'enquêter, de trouver, d'établir les faits, d'établir les responsabilités au niveau local, au niveau de la chaîne de commandement éventuellement, de dire à la population congolaise, à ses victimes, au gouvernement, à la communauté internationale, qui sont responsables de ces violences, afin qu'il s'agisse au Congo ou ailleurs, ou par un tribunal international. Donc, en l'état, si ce texte est voté demain, ça va être une certaine déception, mais en même temps, c'est un pas positif, parce que déjà, il y a une forme de reconnaissance de la capacité limitée, pour ne pas dire de la volonté quasi inexistante des autorités congolaises à mener des enquêtes sérieuses dans ces massacres très graves. Si le comité, le Conseil des droits de l'homme envoie une équipe d'experts internationaux pour travailler en coopération bien sûr avec les autorités congolaises, ça va renforcer, nous l'espérons, le travail de négociation qui doit être fait et nous espérons qu'il pourrait en sortir la vérité que tous les Congolais attendent et que les victimes méritent bien. Donc c'est une forme de reconnaissance de ce manque de volonté, de ce manque de capacité, puisque autrement, on n'aurait pas eu besoin d'envoyer des experts. Il y a déjà le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui est au Congo, et dont le gouvernement dit qu'il collabore, donc on n'aurait pas eu besoin d'envoyer d'autres experts.
Par ailleurs, Jean-Maubert Singa,
la question de la souveraineté qui est évoquée, oui.
Oui, peut-on vous parler, vous dites que si la résolution est votée ce vendredi dans les termes, ce serait une grande déception pour vous, notamment les ONG de défense des droits de l'homme, internationales comme locales, et donc ce serait une grande victoire pour la diplomatie congolaise.
Je crois que c'est mal placé de parler de victoire ou de défaite de qui que ce soit. Je crois que la seule chose qui devrait intéresser toute personne sensée, y compris le gouvernement et ceux qui parlent en son nom, c'est la vérité et la justice pour les victimes, qui sont congolaises pour la plupart. Il y a eu deux experts des Nations Unies étrangers, mais ces deux personnes, comparées à plus de 3000, on entend, le chiffre de l'Église catholique, même si c'est 10 ou 100 ou 500 Congolais qui sont morts, ce sont des Congolais. Et donc la compassion, la simple compassion commanderait à ce qu'on ne puisse pas faire du triomphalisme sur des questions qui concernent l'établissement de la vérité et de la justice. Ce qui doit triompher, c'est la vérité et la justice. Et nous espérons que d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, la vérité va se connaître et les responsables vont répondre.
Alors, selon vous, Jean-Maubert Singa, à quel niveau ce plaidoyer de la communauté internationale n'a-t-il pas pu porter ses fruits pour qu'on en arrive à une telle décision aujourd'hui? À quel niveau ça a échoué?
Alors, les autorités congolaises ont estimé qu'elles avaient déjà commencé des enquêtes et qu'il y a des procès qui ont procès notamment qui ont commencé l'un dans le cas de l'assassinat des deux experts et la disparition de leurs accompagnateurs congolais dont personne ne parle. Et puis, on est concentré sur le massacre de Mwangalonga qui avait été révélé dans une vidéo au début de cette année. Elles ont essayé, grâce à leurs partenaires africains notamment, et donc on connaît malheureusement le record en matière de droits humains. Vous voyez le pays comme le Burundi qui a refusé carrément une enquête des Nations Unies et qui a déclaré non grata tous les enquêteurs, des pays comme le Rwanda, qui hébergent des criminels, des gens qui ont commis des crimes graves au Congo et qui a été impliqué les années dernières dans plusieurs conflits au Congo, des pays comme l'Éthiopie, etc. Ce sont ces pays-là qui ont fait bloc autour du gouvernement congolais pour s'opposer à toute enquête internationale crédible, indépendante et transparente.
Merci Jean-Marc.
Comme je disais,
merci,
le texte Jean- que j'ai devant moi, qui est encore un brouillon, ouvre une certaine fenêtre
merci.
Pour des experts internationaux qui, nous l'espérons, vont pouvoir, malgré tout, faire le travail et établir la vérité que tout le monde recherche.
Merci Jean-Marc Senga. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Boniface Moussambi Kabisa, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Robert Mohamed de Bukavu, au sud Kivu. Cette décision de l'ONU n'est pas du tout bonne. À travers elle, visiblement, l'ONU se réagit au vœu des autorités gouvernementales de Kinshasa de ne pas vouloir enquêter sur le massacre du Kasaï. Je me demande alors comment la vérité devrait être établie pour bien dégager les responsabilités par rapport à ce massacre. Au fond, à quoi sert encore l'accompagnement de l'ONU en RDC?
Professeur, j'ajoute cette réaction de Patrice Mulumba de Kananga qui dit « En se retirant sur l'enquête au Kasaï, l'ONU a failli à sa mission primaire, celle de maintenir la paix et l'unité dans les pays membres, si elle laissait le gouvernement congolais patauger seul dans cette boue. » Professeur.
Bon, mais moi je pense que c'est vrai, lorsqu'on est du côté des victimes, on a envie d'avoir... les assurances sur l'objectivité d'un jugement. Je n'en disconviens pas. Il y en a même qui ont dit que le gouvernement ne peut pas être jugé parti, d'autant plus que les gens qui ont commis des massacres parmi eux, on peut trouver les membres de nos forces armées. Mais il faut reconnaître que l'armée n'appartient pas au gouvernement. Parce qu'il y a une différence entre l'État et le pouvoir. L'armée, c'est l'État. La police, c'est l'État. La justice, c'est l'État. Non, je me suis mal exprimé. Ça aurait dû être l'État. Mais aujourd'hui, le gouvernement, c'est un pouvoir. Le pouvoir, il est passager. Tandis que l'État, il est permanent. Ça veut dire que lorsque on commet des bavures de cette nature-là, par le personnel qui appartient à l'État, le gouvernement ne peut pas en être complice. Si le gouvernement manipule l'État, comme les gens soupçonnent, il manipule les instruments de l'État, à ce moment-là, on peut, lorsqu'on a des preuves, dire, écoutez, le gouvernement ne peut pas faire partie de ces gens-là. Mais comme mon ami de je ne sais pas qui a dit, mais c'est un piège qu'on a tendu au gouvernement congolais. Si les enquêtes précédentes n'ont pas abouti, cette enquête ici est faite, certes, par le gouvernement, aidée par les Nations Unies, mais sous les yeux des témoins. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, parce que j'ai toujours été contre les enquêtes inquisitoriales, les enquêtes pour lesquelles l'auteur de l'infraction ou l'auteur présumé n'est pas au courant de la recherche des indices de culpabilité. Ici, le gouvernement sera accompagné de ces personnes-là qui seront des témoins, parce que de toutes les façons, si on avait dit que l'enquête soit indépendante, mais je me demande, comment elle peut être indépendante lorsque le personnel administratif local, c'est un personnel de l'État, lorsque ils doivent être protégés par non-éléments de la police. Donc, on ne peut pas avoir une indépendance. Autant que je critique, excusez-moi, les gens qui parlent de la souveraineté, mettons un peu de l'eau dans ces mots-là. Et il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque à Washington. C'est un mot moyenâgeux. La souveraineté, il n'y a aucun État aujourd'hui qui est souverain dans le monde. Ça n'existe pas. Et il y a de nouveaux États qu'on a terroristes qui traversent les frontières sans visa.
Professeur.
Oui.
Professeur, plusieurs États africains se sont montrés solidaires de la RDC. Vous avez vous-même évoqué, attiré notre attention sur l'aspect de la manipulation de l'opinion internationale en prenant le cas de la Libye. Sur le plan des relations internationales, ne sommes-nous pas en train d'observer de plus en plus un glissement vers un bras de fer nord-sud sur plusieurs affaires mondiales?
C'est dommage. Nous le constatons. Moi, le premier, vous savez, je fais mon mémoire en 92 et j'avais demandé, j'avais regretté à l'époque, dans mon mémoire, consultez votre Google, où j'ai demandé qu'il était une erreur d'avoir inscrit la Cour pénale internationale de Nuremberg dans le temps et dans l'espace. J'avais demandé en 92, avant la création du tribunal pénal international. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lui-même, le tribunal s'est discrédité.
Merci.
Et quant à la communauté internationale au niveau des Nations Unies, elle s'est elle-même discréditée. Donc moi, je préfère, et ça c'est vraiment du fond de mon cœur, que l'enquête soit faite par les autorités congolaises au cas où ils font de la complaisance. Nous les avons
merci.
À notre portée.
Merci,
que
professeur.
Que ne le fait pas les Nations Unies, dont nous ignorons quelles sont les intentions qu'ils vont porter.
Merci, professeur Serge Kadima. Il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kindu Omanyema.
C'est Kawaya Deborah, je vous appelle à partir de Kindu. La justice congolaise appartient au pouvoir en place. Au cas où certaines autorités actuelles sont citées comme auteurs des violations des droits de l'homme, les autorités judiciaires n'auront pas la décision, donc c'est un travail nul qu'elles feront. Où a-t-on déjà vu un serpent qui s'est mort?
Serge Kadima.
Il y a les principes de séparation des pouvoirs. Les autorités peuvent être citées sans conviction, sans pièce de conviction, sans preuve. Cela ne peut pas empêcher au pouvoir judiciaire de faire son travail. Ici, lorsqu'on parle des enquêtes, ce ne sont pas des autorités politiques qui font des enquêtes. Le gouvernement de la République, qui est un gouvernement de ceux qui sont à la majorité, ceux qui sont à l'opposition, même de la société civile, qui se préoccupent de l'intérêt de tout le monde, qui est en train de faire ce travail-là, afin que nous puissions retrouver tous la quiétude, la paix, et que la lumière soit autour de ces dossiers. Nous pensons qu'en tout état de cause, on peut tout dire, on peut spéculer, on peut dire ce qu'on veut, que ce soit ceux de l'opposition mais de la majorité, parce que la vérité dépend du camp auquel on appartient. Ceux de la majorité pensent autrement, les gens de l'opposition pensent aussi autrement, mais ce qui est important, c'est que nous devons souligner ici, par rapport à cette enquête, il y a des matières qui ne relèvent pas des Nations Unies. Vous savez, je vais dire une chose très importante. Il y a des matières qui dépendent de chaque État, notamment les pouvoirs régaliens, des missions régaliennes. Les pouvoirs de sécuriser la population relèvent de l'État, de chaque État. Qu'on soit membre du système des Nations Unies ou pas, il y a d'abord l'État qui sécurise ses personnes et les biens.
Ce qui n'est visiblement pas le cas au Kasaï.
Je vais vous dire une chose. Dans ces pays, on a eu à sanctionner des officiels militaires par le président de la République. Il y a eu des officiels qu'on a, à une certaine époque, estimé qu'ils étaient très proches du président de la République. Mais lorsqu'il y avait des enquêtes qui avaient prouvé leur culpabilité, ça n'a pas empêché à la justice de les sanctionner, que ce soit la justice militaire ou bien la justice civile. Donc je pense que c'est un faux fuyant. Sur 100 cas, on ne peut pas évoquer un seul exemple pour dire que la justice de notre pays ne peut rien faire. Donc nous devons continuer à faire confiance à la justice, nous devons également collaborer, nous devons également coopérer pour que notre justice fasse bien son travail. C'est vrai que aujourd'hui, au regard de notre contexte, il y a des petits cas qui peuvent jeter un discrédit sur l'appareil judiciaire ou ce qui se passe dans notre pays. Mais d'une manière générale, lorsque vous partez aujourd'hui même dans nos prisons, vous allez trouver ces autorités-là, vous allez trouver les officiers militaires comme des renseignements qui sont dans nos prisons parce que ils ont commis des actes qui ont été sanctionnés par la justice.
Nous apprenons que l'accréditation de notre consoeur Sonia Rollet de RFI ne lui sera plus accordée. Cette décision du gouvernement congolais intervient après qu'elle ait publié son enquête sur les massacres au Kasaï. Si le gouvernement n'avait vraiment rien à cacher, pourquoi ce genre de réaction?
Bon, nous, pour Madame Sonia Rollet, que je connais plus ou moins bien parce qu'elle a eu à m'interroger plus d'une fois, je suis ami avec elle sur WhatsApp et sur Twitter, mais lorsque vous regardez ce qu'elle publie tous les jours, nous avons l'impression qu'elle n'est pas journaliste et qu'elle était politicienne de l'obédience opposition. Parce qu'elle publie des choses pour lesquelles elle ne détient pas de preuves. Et elle est là en train de vouloir créer une opinion dans le chef de la population pour révolter celle-ci. Lorsque on est journaliste,
n'est-ce pas des accusations gratuites?
Tout ce qu'elle a eu à publier comme enquête, elle a été au Kasaï, elle a été à Chimbulu, elle a été partout où nous avons connu des problèmes pour qu'elle nous dise qu'elle a suffisamment d'éléments pour prétendre balancer les résultats de ces enquêtes. Nous pensons qu'il faut être sérieux dans ce qu'on fait dans la vie. Lorsqu'on a choisi un métier, il faut faire respecter ce métier-là. Il faut éviter d'embrasser tout dans la vie.
Merci. Jean-Maubert Singa, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Butembo au Nord Kivu.
Je suis Kakule Mouseke de Butembo au Nord Kivu. Le manque de constance de la part de l'ONU prouve à suffisance le jeu malveillant et dangereux auquel se livre la communauté internationale. Pourquoi avoir fait des déclarations si on n'avait pas la maîtrise du dossier? Ne devrait-on pas attendre avec le gouvernement congolais avant toute déclaration qui par la suite ne sera même pas réalisée? Avec cette façon de faire, l'ONU n'est-elle pas en train d'éprouver son inefficacité et qu'elle ne peut agir pourvu qu'on lui accorde la chance? À mon humble avis, cette attitude de l'ONU soutient la thèse selon laquelle la solution au problème congolais ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, c'est aux Congolais de se prendre en charge.
Jean-Maubert Singa.
Oui, je dois préciser, moi je suis pas porte-parole des Nations Unies, et en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous regardons l'intérêt de la population, la justice, la vérité, et les responsables, que ce soit les autorités nationales dans un pays, dans ce cas-ci le Congo, ou bien les Nations Unies. Donc les Nations Unies, ce n'est pas une institution qui est parfaite, qui fonctionne de façon parfaite. On a eu plusieurs fois à dénoncer des abus, par exemple, commis par des cartes bleues en Afrique, en Centrafrique et même au Congo. Les Nations Unies ont tenté entre 1993 et 2003 au Congo sur les crimes graves qui ont été commis pendant la période de 1993 à 2003, je disais. Ils ont sorti en 2010 ce qu'on appelait le Congo Mapping Report. Jusqu'à aujourd'hui, ce rapport n'a jamais été suivi de fait. Ce n'est pas seulement la responsabilité des Nations Unies, encore une fois, encore la responsabilité des autorités congolaises. Donc, les dysfonctionnements, les problèmes au niveau du rapport de force entre les États, c'est une réalité. Nous, moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est la vérité et la justice. Qu'elle soit rendue au Congo ou à la CPI, à la E, ou par un autre tribunal. Et qui importe, elle aurait que pour les victimes et la vérité et la justice auxquelles elles ont droit. Nous avons beaucoup de respect pour des magistrats congolais qui, dans des conditions souvent difficiles, font un travail énorme. Il y a des compétences, il y a des talents au Congo, ça c'est indéniable. Le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Le problème, c'est la politique, une fois encore. Et si on regarde toute cette affaire du Kassai, comment il a été géré au niveau de la communication par les autorités congolaises, on se rend bien compte que, en fait, la justice, elle est comme marginalisée. C'était comme si la justice faisait partie du gouvernement. Et le gouvernement porte une sorte d'acharnement. On a entendu les éditeurs évoquer des cas de Maluku, des cas de Tchébéa, les procès de Béni et d'autres affaires qui sont restées soit lettre morte, soit qui ont vu accoucher d'une série parce qu'elles ont été bâclées au niveau des enquêtes ou que les autorités ont tout simplement tout fait pour empêcher toute enquête sérieuse et l'éclatement de la vérité.
Jean-Maubert Senga.
C'est ça qui est déplorable.
Jean-Maubert Senga, l'ONU n'enverra plus qu'une équipe d'experts qui vont remettre leurs conclusions aux autorités congolaises. Quel est le degré d'efficacité que vous accordez à cette option?
Comme je disais au début, c'est mais encore qu'une hypothèse jusqu'à demain, au moment où il va y avoir vote au Conseil des droits de l'homme. Mais dans cette hypothèse-là, nous espérons et nous continuerons à suivre auprès des autorités congolaises, tout comme auprès des Nations Unies, pour que les experts qui soient envoyés jouent effectivement leur rôle, qu'on les laisse travailler en toute transparence et en toute indépendance, qu'on leur laisse l'accès aux victimes, aux témoins, aux documents et aux suspects éventuels. Et nous attendons de façon impatiente les conclusions qu'ils soumettront à partir de l'année prochaine. Donc nous espérons vraiment de tout notre cœur que la vérité et la justice vont être rendues dans cette affaire parce que c'est un massacre de trop.
Luc Malembe de Bounia en Ituri dit « À travers une telle décision, l'ONU vient de cracher sur la mémoire des milliers de victimes englouties dans cette région, y compris sur celle de ces deux experts qui n'ont aucune chance de connaître un jour leur bourreau ni de les voir répondre de leurs actes devant une juridiction indépendante. » Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Je n'ai pas à le partager. C'est un sentiment qui est exprimé par beaucoup de Congolais, par cet auditeur de Bounia, mais aussi par beaucoup d'autres Congolais qui doutent de l'efficacité et de la volonté surtout des autorités congolaises à laisser éclater la vérité dans cette affaire. Donc, c'est un sentiment, c'est une frustration que beaucoup de Congolais partagent, et moi, personnellement, je la comprends. Je la comprends tout à fait. Alors, c'est aux autorités congolaises, encore une fois, de montrer que réellement elles n'ont rien à cacher et qu'elles peuvent laisser éclater la vérité.
Merci.
Qu'elles peuvent laisser des enquêtes être menées par la justice congolaise et par les experts internationaux jusqu'à identifier
Merci.
Les responsables, quels qu'ils soient, quel que soit leur rang ou leur position, qu'ils soient identifiés, connus et jugés de façon sérieuse.
Merci Jean-Maubert Senga, je considère cela comme votre conclusion. Serge Kadima, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite de cette affaire?
Dans la suite de cette affaire, est que je pense tout simplement que le gouvernement reste ouvert et qu'il attend cette équipe d'enquête des Nations Unies pour qu'ensemble nous puissions lever les petits doutes qu'il y avait, parce que les gens croyaient que le gouvernement avait des choses à cacher, mais non. Par contre, le porte-parole du gouvernement avait annoncé que nous étions ouverts à toute personne qui a un chemin qui peut nous permettre d'arriver rapidement à la solution à ces problèmes. Donc nous pensons ici dire à tous mes compatriotes de rester sereins, de continuer à faire confiance au gouvernement, mais ce qui est vrai, c'est que d'être également vigilant et de suivre ce que la mission d'enquête, que ce soit internationale ou bien l'enquête de nos compatriotes, afin que s'il y a dérapage, les dénoncer au moment opportun pour que l'on puisse pas biaiser la solution.
Professeur Boniface Kabisa, justement en guise de conclusion.
Des conclusions, et je pense qu'il ne faut pas confondre la justice du gouvernement. Il faut que des personnes chargées de rendre justice le fassent en toute indépendance pour prouver à la communauté internationale par cette occasion
que nous sommes un État justement souverain.
Merci professeur, c'est par vous que nous terminons cette émission. Mise en onde de Jean-Noël Mokondo, réalisation Kéline Kouté, assisté de Berry Franklin Louchaka, supervision Suzanne Zobo, coordination et présentation Alain Irung-Mouchige. Au revoir.